With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast sur l'actualité de la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec mon compère Stéphane Vrignot, on va parler évidemment du Grand Prix du Qatar, 20e épreuve cette saison, antépénultième rendez-vous de la saison. J'aime bien placer un petit mot comme ça, en plus ça place tout de suite les débats. Ça va Stéphane, t'es prêt à nous dire tout ce que tu sais, tout ce que tu as retenu de ce Grand Prix du Qatar ?
Bah oui, et toi Gilles ?
Impeccable, écoute.
Ouais, je pense qu'on va être bavard.
Oh oui, on a plein de choses à dire. Hamilton, impérial, encore au Qatar. Est-ce que ce n'est pas la voie royale vers une huitième couronne pour le Britannique ? On se posera la question, évidemment. Et pendant que Hamilton brille, Red Bull perd le contrôle. On reviendra notamment sur les dérapages verbaux ahurissants du patron de l'équipe autrichienne. Puis deux, trois autres petites choses. Et puis on terminera avec un retour sur le podium, celui de Fernando Alonso, 7 ans après son dernier passage sur la boîte. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On commence donc ce podcast aujourd'hui avec une question qui va paraître un brin provocante, je ne sais plus, enfin bon bref, mais quand même, est-ce que Hamilton n'est pas sur l'autoroute vers un huitième titre ? Il a enchaîné avec une deuxième victoire consécutive au Qatar, la 7e cette saison, la 102e de sa carrière, en tête du début à la fin, en partant de la pole, c'est pas arrivé si souvent que ça ces derniers temps, et ne laissant absolument aucune chance à ses adversaires. J'ai envie de te dire, Stéphane, la victoire de Lewis Hamilton, elle fait encore plus mal à Red Bull que celle du Brésil, malgré la remontée que Lewis Hamilton avait fait à Sao Paulo, parce qu'elle s'est faite sans le moteur. Moi, je l'ai baptisé le moteur Carnaval, celui qui a été mis en action au Brésil, parce que alors là, il y avait des chevaux à gogo, ça dansait la samba dans les soupapes de la Mercedes. Et ce moteur, donc, il n'a pas été utilisé au Qatar, on l'a gardé au jour, on dit non, on n'en a pas besoin, on va gagner sans. Et malgré cela, bah, ça a été un sans faute, à commencer par, alors il y a eu les essais libres, bon, ça on teste, hein, surtout qu'on découvrait ce tracé du Qatar pour les Formule 1, mais dès les qualifs, on a vu qu'il y avait un vrai avantage pour Lewis Hamilton et pour sa Mercedes.
Ouais, alors je te coupe Gilles, t'as vu qu'il y a un biker qui cherche le pot d'échappement de sa Harley à Losail ?
Non, j'ai pas.
Je vais demander à notre réalisateur Sébastien Petit nous envoyer la photo, voilà. Donc c'est Lewis qui l'a. Hein. Mais tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne parce que Verstappen, lui, il a eu la version mobilette. Tu vois. D'accord. Alors, petit budget, oui. C'est un peu étonnant, tu vois.
Bah, c'est la version de temps.
Tout à fait. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant, on va dire. Voilà. Mais bon, voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Bah oui, effectivement. Près d'une demi-seconde, c'est juste incroyable. C'est le plus gros écart, en fait, vu en qualif cette saison sur une piste sèche, sans le moteur numéro 5 monté à Sao Paulo. Donc là, c'était juste sidérant. Et Red Bull a tourné le problème dans tous les sens. C'était un choc, véritablement, parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Il y avait entre 2 et 3 dixièmes d'écart aux essais. Et là, bam, presque 5 dixièmes. C'est juste énorme sur un circuit qui demande beaucoup de qualité, en fait, aux voitures, c'est-à-dire des grands virages en appui, à haute vitesse, du rythme, une grande ligne droite. Donc, il faut un châssis complet, il faut un bon moteur. Et le moteur donc, de Sao Paulo n'expliquait pas tout parce qu'il n'était pas là, tout simplement. Et puis, cette différence aussi se situait dans le châssis. Moi, je pense, hein, Gilles. Et d'ailleurs, Red Bull a dit, c'est Hamilton qui a mieux réglé sa voiture. Nous, on n'a pas su trouver les réglages pendant les 3 jours.
En tout cas, il a été serein absolument tout le week-end. Et ça, c'est vraiment le truc le plus dingue. Hein. C'est que donc, la cellule dirigée par Andrew Chauvelin, qui est le directeur d'ingénierie piste, a proposé avant ce Grand Prix de garder donc le moteur Carnaval au chaud en disant qu'il y avait de quoi faire au Qatar et de garder donc ce moteur pour les deux derniers Grands Prix où là il y a beaucoup plus de portions de ligne droite où il sera sans doute très utile. Ça veut donc dire, et tu parlais des qualités du châssis, ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu que des progrès moteurs faits chez Mercedes. Là, ces dernières semaines, ces derniers jours, il y a eu un pas en avant aussi sur l'équilibre de la Mercedes au Brésil. Et moi, je trouve ça dingue de se dire que cette voiture, qui sera bonne pour le musée dans une quinzaine de jours, allez, on va dire un peu plus, parce qu'il n'y a pas de Grand Prix ce week-end, eh ben, elle a encore évolué là, ces dernières semaines. Honnêtement, qu'on soit fan de Mercedes ou pas, je trouve ça quand même assez incroyable qu'on se soit remis, parce que j'ai quand même le sentiment, moi, que Mercedes pensait avoir un petit peu de marge. Ils se sont fait rattraper et dépasser par Red Bull. Il a fallu qu'ils se remettent un coup. Et là, ça a fini par payer. Alors, on va voir si c'est décisif ou pas sur les deux derniers Grands Prix. Mais moi, je trouve ça admirable quand même d'avoir réussi à relancer une voiture qui semblait finalement voilà, parfaitement aboutie. Et maintenant, on se dit, qu'est-ce qui peut se passer pour la suite, pour Lewis Hamilton, avec ce moteur numéro 5, ce moteur Carnaval, qui va faire son retour. Il y a des questions que je vais te poser. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on va pouvoir contrer ce moteur à Jeddah et à Abu Dhabi? Et surtout, ensuite, est-ce qu'on va pouvoir compter sur Valtteri Bottas du côté de Lewis Hamilton? Parce qu'il va en avoir besoin.
Oui, et est-ce que Verstappen va pouvoir contrer aussi Hamilton, parce que quand Marco dit que Hamilton avait les bons réglages, ça veut dire que Verstappen ne les avait pas, il l'a dit en creux. Et si tu regardes bien, Hamilton était mal parti le vendredi, parce qu'en fait, sur cette piste nouvelle, Mercedes avait partagé un peu les risques, et il se trouve que c'était Bottas qui avait les bons réglages. Et Hamilton a quand même grogné, et le samedi, il a récupéré des réglages, évolué par rapport à tout ce qui s'était passé vendredi. Et là, tout de suite, il était très, très bien. Il a pris le pas vraiment sur Bottas. Je crois qu'il lui met 6 dixièmes en qualif. C'est juste énorme. C'est monstrueux. Et à partir de là, il a déroulé pendant que Verstappen faisait un peu du surplace. Donc là, ce qu'ils ont trouvé, c'est aussi par rapport à Hamilton, je trouve. Et maintenant, sur la fin de saison, oui, le moteur numéro 5 va avoir un impact. Helmut Marko essaie de se convaincre que non. Il dit que le moteur sera beaucoup moins puissant à Jeddah, le prochain rendez-vous. Oui, peut-être un petit peu, mais il faut rappeler quand même que tout le monde voulait faire la saison avec
trois moteurs,
donc 7 Grands Prix. Alors, on a vu que ce n'était pas possible. Tout le monde en utilise 4, mais c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est 5 Grands Prix. Et là, en fait, bah, Hamilton, il va faire 3 Grands Prix en tout avec ce moteur. Il va rouler 3 jours à Sao Paulo, 2 jours à Jeddah et 2 jours à Abu Dhabi. Et on verra d'ailleurs s'ils montent le moteur, s'ils prennent le risque de changer le moteur entre les essais libres et la qualif le samedi, mais ils le mettront certainement pas le vendredi. Donc ça veut dire qu'ils ont de la réserve, et je pense qu'effectivement Red Bull peut avoir peur de ça, c'est certain. Alors je notais juste une petite chose, c'est que ils ont fait des changements à minima. Et que Hamilton, pour l'instant, dans son pack en fait, technique de moteur, n'a que 3 MGUH et 3 MGUK, les récupérateurs d'énergie, en fait, qu'on change aussi normalement, et Verstappen les a changés aussi, mais on n'a pas peur. Chez Mercedes, on va continuer comme ça. Et puis, pour ce qui est de Bottas, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'il joue le jeu, tout simplement. Moi, je l'ai vu disparaître, on l'a vu disparaître oui. Dès le départ.
Et il puis, s'est ensablé.
Il a eu des propos un peu sibyllins en disant « Je ne peux pas entrer dans les détails, mais ma voiture n'était pas la même que vendredi et elle n'était même pas la même que celle de Lewis. Il y avait des différences, je ne peux pas vous en dire plus. » Alors là encore, c'est le langage négatif. Je dirais, il envoie encore des signaux négatifs. Il coûte cher au championnat parce qu'il n'est pas là, il ne rapporte pas de points. C'est un vrai problème. Est-ce que Lewis Hamilton pourra compter sur lui ou pas? Je pense que dans sa tête, il faut qu'il fasse 100.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. On va voir d'ailleurs hein, le comparatif entre Mercedes et Red Bull, parce que là aussi, ça chauffe hein, au niveau du classement des constructeurs, si tu veux bien, Stéphane. 546 points et demi pour Mercedes, 541,5 pour Red Bull. Il y a 5 points d'écart, on est revenu vraiment tout près, parce que paradoxalement, avec l'abandon de Valtteri Bottas, eh bien Red Bull a marqué plus de points le week-end dernier à l'Oseille au Qatar que Mercedes. Donc on est revenu à 5 points, et si on le voit, hein, depuis le début de la saison, en fait, Mercedes fait la course en tête, 8 victoires pour Mercedes contre 10 à Red Bull, quasiment le double, plus du double même, de tour en tête pour Red Bull. Un abandon de moins pour la firme autrichienne. Des meilleurs tours, c'est plutôt favorable du côté Mercedes. 10 pole positions en Q3 contre 7. 12 victoires en qualification à 8 pour Mercedes. Donc finalement, on se rend compte que la Mercedes a encore l'ascendant sur la partie qualification. Et les points marqués pendant les courses sprint, on était à 9-7 pour Mercedes. Je crois que c'est surtout, alors paradoxalement, c'est surtout Valtteri Bottas d'ailleurs qui a marqué les points en course sprint. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que c'est finalement assez serré et que plus ça va, plus c'est serré, j'ai envie de te dire.
Oui, je dirais que c'est solide et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle Lewis Hamilton est assez serein, puisque en dehors de la technique, il y a une certaine forme de sérénité et il arrive en plus à gérer tous ses engagements qui sont forts. Il a porté un casque LGBT en faveur de l'inclusion, de la diversité au Qatar. Il va le porter sur les deux derniers week-ends de Grand Prix. Et il s'est positionné, il est allé un peu plus loin que les autres pilotes en conférence de presse. Il a dit les choses très clairement pour là aujourd'hui. Il demandait en fait aux gens de s'interroger sur ces questions-là dans un pays où il y a des progrès à faire. Voilà, il a dit que le sport était là pour passer un message, mais il n'est pas allé plus loin. C'était suffisant. Et je dirais que il joue sur du velours. Il ne se prête pas à des polémiques qui pourraient ensuite lui prendre de l'influx. Je dirais que il arrive à tout faire. Il était super serein et il case tout. Il coche toutes les cases, voilà. Et à côté, Verstappen s'énerve beaucoup, c'est vrai. Là, pour l'instant, ils sont très solides, tout simplement, chez Mercedes. Donc, il a dit qu'en fait, lui, ça lui avait fait du bien, surtout de passer un week-end propre, tranquille. C'est vrai, en comparaison à ce qu'a vécu Verstappen.
Exactement. Alors justement, on va s'intéresser hein, au cas Max Verstappen, qui est toujours leader du championnat. On semble l'oublier. C'est pour ça que je disais qu'on faisait un peu de provocation en parlant de l'autoroute vers le titre pour Hamilton, parce que c'est toujours Max Verstappen qui est en tête du championnat, avec 8 points d'avance encore sur Lewis Hamilton. Il en avait 14 hein, au Brésil, le Néerlandais, qui a fait son job finalement en 4 tours. Hein. Il avait fait 2 deuxième en qualif, pénalisé, on y reviendra un petit peu plus tard, après la qualif pour avoir fait un chrono sous double drapeau jaune. Donc il a pris 5 places de pénalité, il s'est lancé de la 7e place sur la grille. Il y a fallu 4-5 tours pour revenir jusqu'à la 2e place. Et à partir de là, il est allé chercher le meilleur tour en course pour prendre un point de plus. Mais à partir du moment où il était 2e, on a rapidement compris qu'il était sans armes. On a évoqué le fait qu'il n'y avait pas les bons réglages chez Red Bull. Pourtant, c'était intéressant ce que nous avait expliqué Sébastien Buemi aux États-Unis, où ils étaient mal partis le vendredi. Et puis en travaillant dans la nuit du vendredi au samedi, sur les simulateurs, ils avaient réussi à trouver des solutions. Là, manifestement, on n'en a pas trouvé chez Red Bull, qui s'est retrouvé donc non seulement à quasiment une demi-seconde de Lewis Hamilton, mais finalement presque talonné par l'AlphaTauri de Pierre Gasly. C'est surtout ça, toi, qui t'as alerté, Stéphane.
Il y a 10e, c'est complètement inhabituel. Il y en a plutôt 6 ou 8, vu la différence de matériel. Donc, ça voulait dire qu'il n'y était pas, mais on en a discuté en préparant l'émission. Gilles, tu m'as dit, mais Perez non plus n'était pas dans le coup, il s'est fait éliminer en Q2, c'est clair. Donc je pense aussi que c'était très tendu en termes de réglage, que Verstappen a limité les dégâts, comme l'a bien résumé Helmut Marko, et qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Alors il y a eu un petit souci, ils ont constaté que Verstappen perdait beaucoup de temps dans le virage numéro 6, sur un tour chrono, c'était ça un petit peu sa faiblesse. Et sur les setups, en fait, c'est ça qui posait problème. On l'a vu aussi forcer vraiment sur le premier secteur en qualif pour essayer de compenser. Et puis, en fait, il s'est croulé dans le secteur 2 et le secteur 3. Donc, il n'a jamais trouvé le bon compromis et la bonne réplique à Hamilton de ce point de vue-là.
Alors, c'est étonnant parce que Ce virage numéro 6, en moto, on le connaît très très bien. Et il fut un temps où je commentais les courses de Moto 2, à l'époque où il y avait un certain Johan Zarco qui évoluait en Moto 2. Et je me souviens que Johan m'avait parlé de ce virage numéro 6, où sur les acquisitions de données, bah, il voyait bien qu'il perdait du temps par rapport aux autres. Et il me disait, on n'arrive pas à comprendre parce que ce n'est pas techniquement, c'est juste que je ne sais pas comment prendre ce virage. C'est un enchaînement qui paraît vraiment banal, mais qui, en termes de pilotage, je me souviens, Johan m'avait dit, il est vraiment pas évident comme virage, et pour l'instant, j'ai pas trouvé le mode d'emploi. Bon, ensuite, il a fini par le trouver, parce qu'il a enchaîné deux titres de champion du monde en Moto 2, mais comme quoi, de temps en temps, il y a des difficultés qui passent totalement inaperçues, alors qu'en fait, elles posent vraiment problème parfois. J'aimerais bien qu'on se pose la question de savoir si le problème de performance chez Red Bull, finalement, il ne vient pas d'une voiture qui serait finalement en bout de développement et on n'a plus de ressources. Ce qu'on a été capable de faire chez Mercedes, c'est-à-dire trouver vraiment encore une dernière solution pour faire aller la voiture encore plus vite, bah peut-être qu'on plafonne maintenant chez Red Bull et que il y a toutes ces histoires d'aileron arrière. Je ne sais pas si tu as noté le temps, mais le nombre d'heures qu'ils ont passé à travailler sur les ailerons arrière et on ponce et on remet de la colle. Et j'ai l'impression que, en fait, si tu veux, j'ai pas d'infos, hein, je vais pas inventer un truc, mais je me demande si les problèmes d'aileron arrière chez Red Bull ne limitent pas finalement ce qu'on peut faire comme réglage sur cette auto et finalement n'obligent pas à trouver un équilibre un peu moins bon que ce qu'on pourrait faire si ces ailerons allaient bien. Là, j'ai le sentiment qu'il y a un loup sur l'aileron et que ça déséquilibre en fait toute la voiture. Parce que si l'arrière de la voiture n'est pas en équilibre, fatalement, il faut déséquilibrer un petit peu l'avant pour garder une cohérence d'ensemble. Je ne sais pas si tu comprends et si les gens qui nous écoutent et nous regardent comprennent. Et j'ai l'impression que c'est ce qui bloque en fait.
Alors, on l'a vu pendant les essais. Ils ont ramené les deux voitures au stand en urgence parce que le DRS, en fait, s'affolait complètement. On n'arrivait plus à stabiliser le volet supérieur. Et il y a un petit mécanisme dans ce DRS qui comprend des ressorts, apparemment, si on a bien compris, et qui sont un petit peu fragiles. Et ils ont refait, en fait, ces DRS pendant les essais libres. Mais ça veut dire du temps de piste perdu. Au bout du compte, ils ont tourné presque autant que les autres. Mais sauf que quand tu es obligé de faire tes runs en fait de 4 ou 5 tours pour vérifier plein de choses les uns après les autres, en fait t'as pas de recul, tu peux pas te poser 5 minutes pour dire qu'est-ce qu'on fait en termes de réglage, comment est-ce qu'on avance, et forcément ça à un moment tu le payes quand même, c'est clair. Je crois que c'est en essai libre 2, au moment même où en fait en termes de timing, c'était 15h en France, se déroule la séance de qualification et où démarre la course. Ça veut dire que cette séance-là était cruciale. Il y a du temps qui leur a manqué en essai libre 3 aussi pour ça. Et avec ces problèmes de DRS. Et au bout du compte, je pense qu'ils étaient aussi moins préparés. Alors, tu l'as dit, Gilles, ils ont fait beaucoup de courses au développement pour reprendre de l'avance par rapport à Mercedes. À un moment aussi, on a pensé que c'était le moteur Honda. Et je pense qu'ils insistent beaucoup là-dessus chez Mercedes. Ils n'avaient pas encore trouvé l'optimisation des réglages et qu'ils y parviennent. C'est-à-dire que c'est vraiment que de l'exploitation. C'est ce qu'on essaie de faire dans les autres équipes parce que sur ce dernier Grand Prix, on n'apporte plus de pièces nouvelles. Et là, Red Bull, ils sont un petit peu coincés. Là où ils prenaient un petit peu de marge, ils arrivaient avec des nouveautés, un dixième. Ben là, il n'y a plus ça et ils sont pendus.
Exactement. Malgré tout cela, Stéphane, il faut quand même dire deux choses. Hein. D'abord, une déclaration de Max Verstappen. Donc, c'est après la course parce que ça a quand même beaucoup palabré. On va y revenir. Max Verstappen, lui, ne se laisse pas entraîner là-dedans. Hein. Il dit la course n'est pas compliquée. Il y a une pédale de frein, une pédale d'accélérateur, un volant. Il y a beaucoup de spectacles autour. Mais je pense qu'en tant que pilote, nous savons ce qu'il faut faire et que tout ce qui est autour n'est pas vraiment pertinent pour moi. Je dois juste me concentrer sur mon travail. C'est à la fois beaucoup de hauteur de vue, je trouve. Ou alors, tu peux te placer aussi de l'autre côté et te dire que quelque part, il y a un petit sentiment de résignation là, dans ces mots-là, dans le sens où, quelque part, il dit « Moi, je fais ce que je dois faire et le reste m'échappe. »
Il y avait de la résignation, il y avait un petit peu de fatalisme, c'est vrai, par rapport à cette pénalité dont il avait écopé. Et en fait, en course, il a dit… Une fois qu'il a bien réalisé qu'il était trop loin d'Hamilton pour aller chercher, même s'il a essayé, il a dit de toute façon, on va terminer deuxième, on va s'amuser un peu. C'est ce qu'il a dit, à attaquer, etc. Mais déjà, il savait que deuxième, c'était bien, qu'il était en mode limitation des dégâts. Lui, il fait son petit calcul quand même. Ça fait 6 fois de suite qu'il termine premier ou deuxième. Il sait que c'est un rythme de champion. Donc ce Grand Prix du Qatar n'était pas pour lui. Alors, moi, je pense quand même que Red Bull en a pris un gros coup sur la tête au Brésil parce qu'ils avaient pointé sur ce circuit comme étant un circuit favorable à la Red Bull, véritablement, avant de souffrir sur les 3 derniers Grands Prix. Et là, en fait, il n'y a pas eu le compte de points au Brésil et ils prennent une claque encore au Qatar. Et là, en fait, ils s'aperçoivent même que sur des inversions de tendance qui étaient un petit peu imprévues en cours de saison, puisque ces derniers temps, on pensait que Red Bull était fort sur un circuit et puis c'était Mercedes et l'inverse, Red Bull n'a même pas pu créer une surprise, on va dire. Et donc, c'est ça qui les mine un petit peu et qui leur fait peur, je pense, maintenant. Quand on voit Horner qui dit « Non, je ne suis absolument pas optimiste pour la fin de la saison », ils vont tout donner, mais ils savent que la dynamique est du côté de Mercedes pour l'instant.
Alors, cela étant dit, mon cher Stéphane, il faut quand même signaler que dans 10 jours, donc en Arabie Saoudite, Max Verstappen aura une première possibilité d'être titré champion du monde. Il y a 4 cas de figure hein, pour que le Néerlandais coiffe la couronne mondiale. S'il s'impose avec le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton fait 6e ou moins bien, ou alors s'il s'impose sans faire le meilleur tour en course, à ce moment-là, il faudrait que Lewis Hamilton ne fasse pas mieux que 7e. Il peut même se permettre de terminer à la 2e place avec le meilleur tour en course. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas que Lewis Hamilton soit dans les points. Autrement dit, il ne faudrait pas qu'il soit 10e. Ou alors, il peut même terminer 2e sans le meilleur tour en course. Et à ce moment-là, il faudrait carrément que Lewis Hamilton soit au mieux 11e. Autrement dit, qu'il ne marque pas de points. Voilà, on a dit que la dynamique, elle était du côté de Mercedes. On a dit que chez Red Bull, on avait pris un coup dur, on a pris un coup sur la cafetière. Ben, n'empêche qu'il peut quand même, lui, être titré à Jeddah.
Oui, alors c'est vrai parce que c'est le propre en fait du leader du championnat. Il a toujours une balle de match sur l'avant-dernière course du championnat. Donc ça, c'est assez traditionnel. S'il gagne, je pense que c'est plié. Et même s'il n'est pas champion, il prend encore 7 points ou même 6 points d'avance sur Hamilton. Ça fera 14 ou donc 15. Ça sera largement suffisant. Je crois qu'une même une 3e ou une 4e place lui suffira largement pour finir la saison. Et pour l'instant, il a même plus de victoires qu'Hamilton. Donc en cas d'égalité, c'est même un cas favorable pour lui. Donc il réfléchit à ça. Il a demandé encore vraiment que même du côté de chez Honda, ils l'ont dit, il faut qu'on règle mieux les moteurs, il faut qu'on les exploite mieux. Ils ont senti qu'ils avaient pris quand même une claque aussi de la part de Mercedes à Sao Paulo. Ils vont voir revenir ce moteur à vitesse grand V. Mais si Hamilton gagne l'une des 2 dernières courses, ça sera pour lui, ça sera dans la poche.
Alors justement, maintenant, on va rentrer dans la dernière ligne droite hein, de ce championnat. Il reste deux Grands Prix. Et on sent que la situation est en train de déraper, y compris chez Red Bull. Dérapage incontrôlé dans la firme autrichienne. On a quand même été assez surpris par le comportement, alors j'allais dire de l'équipe, non en fait, hein, on a le sentiment quand même que c'est Christian Horner qui a perdu un petit peu ses nerfs. On rappelle hein, qu'on faisait là 3 Grands Prix consécutifs, on est allé au Mexique, on est allé au Brésil, on va ensuite au Qatar, ça fait beaucoup de voyages, beaucoup de tensions, beaucoup de fatigue, et là on se dit Christian Horner il est un petit peu coincé. Déjà il y a eu... Après, vous savez, l'affaire au Brésil où Verstappen avait emmené Hamilton en dehors de la piste, et restait à ce que Mercedes avait fait appel et restait à savoir si cet appel serait jugé ou pas. Finalement, Mercedes a été débouté. Et évidemment, du côté des organisateurs, on a invité pour la première conférence de presse au Qatar Toto Wolff et Christian Horner en se disant que pourrait se passer quelque chose d'intéressant. Ils ont bien fait parce que, alors là, Christian Horner, il a joué un petit peu les fiers à bras et il est allé franchement du côté du vocabulaire, Stéphane.
Ouais, dans un langage un petit peu fleuri. Oui. Lui, maintenant, c'est son credo, c'est un petit peu dommage parce qu'il a, besoin maintenant d'entretenir une haine. C'est un petit peu gênant dans les réclamations, dans ses postures diverses et variées.
Et ça s'est mal terminé pour lui, finalement, on reviendra après dessus.
Écarter les enfants, je vais me permettre de dire ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a quand même dit « Je ne suis pas venu pour lécher le cul de Toto Wolff comme les autres le font ». Voilà, bon, fou, une fois que tu as dit ça.
Alors, est-ce qu'il y a besoin d'employer un tel vocabulaire plus que familier, vulgaire, par rapport à ça, d'autant plus que Mercedes venait d'être débouté pour l'histoire de la passe d'armes du 48e tour. Donc, il n'y avait pas de raison, il jouait sur du velours. Mais non, on sent qu'il a besoin quand même d'entretenir cette haine. C'est ça qui me gêne un petit peu. Ça ne la rend pas du tout sympathique chez Red Bull. Ils sont allés trop loin. Moi, dans ces cas-là, je trouve que franchement, le big boss, Matesi, je devrais remettre tout le monde à sa place là-dessus pour dire, les gars, on se calme un petit peu et on va terminer ça à la loyale quand même. Et on a l'impression que ça va mal se terminer. En tous les cas, là, on pose les bases d'une fin en queue de poisson à Abu Dhabi. Bon, alors, j'en reviendrai juste sur un point, effectivement, c'est que ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que Massi a botté en touche, finalement, sur l'histoire du 48e tour, en disant, nous, on a regardé un petit peu les précédents dans ce type de situation, on s'en sert, et on n'a pas trouvé d'autres arguments par rapport à ça. C'est la question, c'était, est-ce que c'est les nouvelles images de la cadre embarquée de Verstappen disaient quelque chose? Apparemment, non. Bon, mais il y a d'autres gens qui sont un petit peu élevés contre ça, comme Jackie X qui a dit, ce qui me gêne un petit peu, c'est que dans un collège de sportifs, de commissaires, il n'y a qu'un ancien pilote. Et tous les autres, en fait, n'ont pas mis leurs fesses dans un baquet de compétition. Et on s'éloigne un petit peu des réalités de la piste à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qui m'embête un petit peu. Et après, il y a eu d'autres choses sur cette pénalité qu'on va voir aussi, mais qui donne le sentiment que la FIA, en fait, n'aide pas. Ni Mercedes, ni Red Bull a retrouvé une forme de sérénité avec des jugements qui sont à géométrie variable, on va dire. Et à ce titre-là, il faut bien voir que juste après la fin du championnat, il y a l'élection du président de la FIA. Donc, en fait, on risque de changer toutes les équipes à la FIA dans cet organisme du pouvoir suprême, dans les instances, qui puisent en fait des éléments de ces instances pour ensuite être des représentants dans les collèges des commissaires sportifs sur les circuits. Ça veut dire que si ça n'est pas Graham Stoker qui l'emporte, donc le Britannique, en fait, qui serait vraiment dans la continuité de Jean Todt, on pourrait avoir des équipes complètement différentes ou largement renouvelées qui seraient amenées encore à se positionner sur des cas de figure en piste l'an prochain si c'est le candidat émirati Mohamed Ben Sulayem qui l'emporte parce que lui voudrait changer beaucoup de choses. Voilà. Bon. Donc, je dirais que la FIA pourrait aider les compétiteurs. Elle ne le fait pas. C'est un petit peu dommage.
Je suis moyennement d'accord parce qu'en même temps, je trouve que c'était une bonne décision de dire voilà, ça y est, ce qui s'est passé au Brésil, c'est derrière nous. Maintenant, on avance. Il reste à ce moment-là trois Grands Prix et on va faire ces trois Grands Prix. Ensuite, il y a eu d'autres pénalités qui sont tombées pendant le week-end au Qatar et notamment à l'issue de la qualification où il y a eu 5 places de pénalité pour Max Verstappen pour avoir finalement pas suffisamment ralenti, ou en tout cas pas ralenti du tout, alors qu'il y avait un double drapeau jaune en fin de Q3 au moment où il y a eu l'incident pour Pierre Gasly. 3 places de pénalité pour Valtteri Bottas. Et là, justement, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, Stéphane, est-ce que ces 5 places de pénalité pour Max Verstappen, elles étaient justifiées ou pas? Sachant qu'il y avait eu, évidemment, l'appel débouté de Mercedes pour cette histoire du Brésil, on a eu le sentiment que, il fallait aussi peut-être un petit peu compenser le fait qu'on avait débouté Mercedes, mais qu'il fallait donc en contrepartie, être intransigeant avec Red Bull. Je ne sais pas si tu as eu ce même sentiment.
J'ai eu l'impression en fait qu'on pouvait lui accorder des circonstances atténuantes. Il y avait un commissaire qui a agité un drapeau jaune qui s'est transformé ensuite en double drapeau jaune, donc qui incitait Verstappen à ralentir et à abandonner son tour. C'est bien ce que ça veut dire, un double drapeau jaune. Avant, c'était un drapeau rouge. Carrément, on arrête, c'est trop dangereux. Et on ne lui a pas accordé le fait qu'il n'avait pas eu de signal de diode en fait, sur son tableau de bord, qui pouvait lui aussi lui indiquer qu'il y avait un drapeau jaune sur la zone, et encore moins d'appel
À
à la
la
radio. Voilà, ça aurait pu plaider pour lui, ça n'a pas été le cas. Le directeur de course, Michael Masi, a dit non, il n'y a qu'une seule chose qui vaut dans cette histoire, c'est le drapeau jaune. Je trouve qu'on est quand même assez dur avec les pilotes parce qu'on leur demande de faire des tours à 300 km/h,
Ouais.
des pointes, des enchaînements qui sont vraiment qui réclament beaucoup de concentration. Et il faut voir quand même en bord de piste un drapeau qui est agité. Mais alors, je te dirais, Gilles, que moi, je pense que dans cette histoire, quand même, Verstappen a payé un petit peu aussi ses frasques passées. Ça lui est arrivé aussi au Grand Prix du Mexique en 2019. Il termine sa qualif. Drapeau jaune dans le dernier virage parce que Bottas vient de se crasher. Et en conférence de presse, en fait, Verstappen, qui a fait la pole, se vante en fait de ne pas avoir ralenti. Il a dit non, mais de toute façon, on est pilote, on sait ce que c'est qu'un drapeau jaune. C'est pas grave, je ne l'ai pas respecté. Bon. Et là, il avait pris 3 places de pénalité. Et sur ce fait-là, Marco, Helmut Marco, le conseiller de chez Red Bull, avait dit non, non, il n'y avait pas de drapeau jaune dans le dernier virage. Il y a des images qui le montrent
Oui.
clairement à tout le monde, à la Terre entière. Bon. Et donc, pour cette désinvolture, je dirais quand même, parce qu'en 2019, Verstappen ne se battait pas pour le
Ouais,
titre, donc
il jouait
c'était un
pas.
petit peu, je m'en fiche de tout. C'est pas mon problème, moi je fais ce que je veux, etc. Il est au-dessus un petit peu des lois. Eh bien, je trouve que ça a constitué un petit peu un passif qui remonte un petit peu à la surface aujourd'hui et on ne lui passe plus rien. Surtout après ces histoires du 48e tour, on voit qu'il joue un petit peu avec les règles. Il arrive à avoir un petit peu, non pas des passe-droits, parce qu'il a des jurisprudences, il les obtient, mais on n'a pas envie de dire oui à tout à Verstappen et on n'a pas envie d'être conciliant tout le temps. Et je trouve que ça, il l'a payé finalement, peut-être à travers ça aussi, parce qu'il a fait dans le passé.
Oui, et donc ça a valu un deuxième dérapage à Christian Horner, qui, à la télévision britannique en direct, a qualifié le commissaire qui avait agité le double drapeau jaune de commissaire voyou. Là encore, il est tombé de cheval, Christian Horner. C'est vraiment étonnant. Moi, je mets. Bon, on sait que c'est un animal, hein, que c'est un tueur, Christian Horner. Moi, je mets beaucoup ça aussi sur la fatigue et sur le sentiment finalement que les choses sont en train de lui échapper. Et c'est quand même, je trouve ça grave. Alors après, voilà, il a blessé physiquement personne. Et d'ailleurs, il a été puni. Il participera à une opération de la FIA. Mais ça a valu donc un deuxième dérapage dans le week-end de Christian Horner. Ça en dit long quand même, là, ces deux faits.
Bah, Christian Horner, tu l'avais pas entendu dire des choses comme ça les années passées. En fait, il essaie un petit peu, on va dire entre guillemets, le sale boulot faire.
Ah,
Il
Helmut
essaie
Marko.
Helmut Marko faire le sale boulot. Voilà, c'est-à-dire les critiques gratuites, même de mauvaise foi. Et lui jouait vraiment piano piano. Il parlait de ses pilotes, il était conciliant. Et voilà, il les soutenait. Mais il n'était pas dans ce registre-là, qui est un petit peu nouveau pour lui et qui le dépasse. Moi, je trouve franchement que ça valait une suspension d'au moins un Grand Prix. Pour la prochaine course à Jeddah, parce que s'il remet en cause tout le système, ça va plus du tout et il faut envoyer un warning très clair. Mais c'est un dérapage vraiment, moi, que je trouve grave, quoi, franchement. Alors, ils ont fait un petit truc sympa quand même, c'est qu'il y a Verstappen qui a été allé voir ce commissaire en question, ils ont un petit peu discuté. Voilà, il a apprécié ce geste-là, il fallait le faire, absolument. Mais on verra ce qu'il en restera sur les deux prochains Grands Prix, mais je crois que Horner sera encore virulent à la limite du correct.
Tout à l'heure, tu disais quelque chose qui m'a interpellé. Tu disais finalement, on est en train de mettre en place les conditions pour que la fin de championnat s'achève en queue de poisson.
Oui.
Ça m'appelle une question, Stéphane. Est-ce que tu imagines possible, imaginons que Lewis Hamilton gagne là en Arabie Saoudite et qu'on arrive avec un point d'avance pour Max Verstappen à Abu Dhabi. Est-ce que tu imagines possible une fin de championnat à la Prost-Senna, accrochage au premier virage, les deux voitures dehors, et puis ben, le champion du monde, il est dans le bac à gravier. Enfin, il n'y en a pas à Abu Dhabi, mais il abandonne en accrochant son adversaire. Tu imagines ça possible?
Alors, Toto Wolff a dit que lui, il l'imaginait tout à fait. Donc, ça, c'est fait.
Lui aussi, il a
Et
eu des mots
puis.
très forts. Poli, mais très fort, hein, en disant qu'on était passé de la boxe au MMA, au free fight.
Voilà, on avait très bien compris son propos. Et oui, Wolff pense que ça peut se terminer très, très mal. Et chez Red Bull, on le dit à demi-mot. Alors, cette bataille, elle va être en coulisses, elle va être en piste. Et tu as remarqué aussi, Gilles, qu'elle avait été dans les stands ce week-end au Qatar. Après l'accrochage, le fameux accrochage de Monza, où la tension, pensait-on, était arrivée à son comble, Mercedes et Red Bull s'étaient mis d'accord, au moins pour ne pas se gêner lors des pit stops. Donc, ils enlevaient leur personnel, les tuyaux en fait, de pistolets pneumatiques pour ne pas gêner les arrivées des deux pilotes, pour ne pas créer un incident supplémentaire, je dirais. Eh bien, au Qatar, c'est revenu. En fait, si tu as bien regardé, ils ont laissé les pistolets pneumatiques chez Red Bull et chez Mercedes. Et quand la Red Bull arrivait, il y avait deux personnes positionnées de Mercedes pour gêner en fait, la vision de Verstappen, même s'il y a un spotter chez Red Bull. Et l'inverse était vrai aussi quand une Mercedes se pointait au stand. Donc là, on ne sait plus rien. Clairement, c'est juste incroyable, quoi. Donc, ils ne vont rien laisser au hasard. Et je pense qu'il y a un tel niveau de frustration qu'on risque effectivement d'avoir une fin de championnat pas belle et assez frustrante pour l'esprit du sport.
Alors, je vais te dire franchement, je suis peut-être naïf, mais je fais confiance aux deux pilotes pour pas en terminer comme ça, en fait. Je sais pas si je l'espère ou si je le pense, mais en tout cas, je le dis. Je leur fais confiance pour éviter ça, parce que ça serait terrible. On est en train de vivre une des plus belles saisons en termes de suspense. Ça serait vraiment terrible que ça s'achève comme ça.
Ça ne m'étonnerait pas que Jean Todt, le président de la FIA, ait des propos forts avant une finale pour leur dire simplement « ne gâchez pas tout
». Ça serait bien. Alors, le dernier point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, Stéphane, c'est... forme de cocorico avec un accent espagnol. Fernando Alonso qui est monté sur le podium avec cette troisième place en belle compagnie quand même avec Lewis Hamilton et Max Verstappen. C'est le premier podium pour le double champion du monde depuis le Grand Prix de Hongrie 2014. Puis avec la cinquième place de Esteban Ocon, Alpine repart de l'oseille avec 25 points d'avance sur AlphaTauri hein, qui était revenu à la hauteur de l'équipe franco-britannique après le Grand Prix de Sao Paulo. C'est la deuxième fois cette saison après la Hongrie justement qu'Alpine place ses deux autos dans le top 5 et on s'en est quand même aperçu assez rapidement que cette A521 était plutôt efficace sur ce circuit de l'Oseille, Stéphane.
Bah, ça a surpris même chez Alpine, hein. Ils ont dit on ne pensait pas que cette voiture serait aussi bien sur, elle aime beaucoup les enchaînements, les virages rapides. Et le moteur Renault aussi est à l'aise dans la grande ligne droite. C'est la belle surprise de la fin de championnat. Et Alain Prost a dit bah, les deux dernières épreuves devraient être sur des circuits à peu près analogues. Donc, on est confiant. C'est quand même génial. Moi, je trouve, je ne sais pas si tu as ce sentiment, Gilles, c'est que ce résultat est plus parlant que la victoire en Hongrie. Si on regarde bien, si on veut voir les choses en face, Esteban Ocon aurait dû se battre pour la 9e place. En Hongrie, s'il n'y avait pas eu ce strike de Valtteri Bottas au départ qui a emmené tout un tas de voitures de premier plan à la casse. Et là, P3 et P5, à la régulière, il n'y a pas un abandon devant. Et Alpine a joué fort parce qu'ils ont en fait déterminé, avant même le départ de la course, que ce serait un arrêt pour eux. Et Red Bull a fait deux arrêts de confort pour Verstappen. Ils se sont laissés embarquer aussi là-dessus. Par rapport à Pérez, ils l'ont laissé un petit peu trop longtemps en piste, il a eu du trafic et ça fait le reste. Et c'est un petit peu étonnant parce que d'habitude, chez Red Bull, ils partagent un petit peu les risques. Dans ces cas-là, c'était peut-être la seule façon de battre Hamilton. Donc, ils auraient pu laisser Pérez sur un arrêt. Et puis, ça n'a pas été le cas.
Surtout qu'on connaît, on connaît la capacité de Sergio Pérez à conserver des pneus longtemps.
Voilà, tout à fait. Donc, ils ont gagné surtout à la régulière. C'est juste génial. Franchement, c'est probant. Ça veut dire que l'Alpine était une bonne voiture. Là aussi, c'est pareil, ils ont fait le même travail que Mercedes, c'est-à-dire que l'acharnement à chercher le setup, les affinements de réglages, et ça paye, je dirais. Et puis, bon, bah, Alonso, qui est pilote du jour, c'est juste amplement mérité, quoi. Alors, sur un circuit fétiche qu'il avait annoncé comme ça, je ne sais pas pourquoi il l'aime spécialement, mais il a de bonnes raisons de vouloir y retourner l'an prochain, enfin le plus vite possible, mais il n'y aura pas de Grand Prix du Qatar l'an prochain, ce sera en 2023.
Exactement. Alors, on s'est permis de faire une petite comparaison, justement, hein, entre Fernando Alonso et Esteban Ocon. On est à deux Grands Prix maintenant de la fin de la saison. Fernando Alonso qui est 10e du championnat, Esteban Ocon 11e, 77 points pour l'Espagnol, 60 pour le français. Ils sont à égalité au niveau des meilleures qualifications, hein, 5e tous les deux, 11-9 au niveau du travail en qualification. Petit avantage à Fernando Alonso, mais enfin, c'est quand même pas humiliant d'être mené 11-9 par un double champion du monde. Une victoire pour Ocon et donc un podium, on va dire entre guillemets seulement, pour Fernando Alonso. Puis deux tours en tête pour l'Espagnol, 65 pour Esteban Ocon. On trouve, enfin, ce qui a été marquant là sur ces derniers Grands Prix, c'est surtout un travail d'équipe qui a été fait entre les deux pilotes, qui n'ont pas hésité finalement à se sacrifier, ou en tout cas jouer la carte du coéquipier.
Ils ont échangé des positions l'un et l'autre en course. Dimanche, Fernando a dit dites bien à Esteban de se battre comme un lion pour voilà, c'est
contre,
ça,
contre
retarder le dépassement. Voilà, c'est ça, son dépassement par Sergio Pérez. Donc, ils s'entendent bien. Il y a un grand respect entre les deux. Et tout ça vient du fait aussi que Fernando est monté en puissance grâce à sa collaboration et ce que lui a montré Esteban, qui était déjà la référence dans l'écurie quand il est arrivé. Alors, tu as parlé des duels en qualification. Je note aussi que Alonso, ça fait, il a battu Ocon 5 fois sur les 7 dernières qualifs, donc tu le sens quand même monter sérieusement en puissance. Et là, je crois qu'il a tout mis en place. En début de saison, au premier Grand Prix, j'ai retrouvé un petit peu ce qu'il avait dit. Il a dit, moi, il me faut plus de rythme, il me faut plus de confiance, il faut que j'exploite mieux les freins, parce qu'il avait encore un problème à ce niveau-là. Il était encore dans son référentiel du WEC avec la Toyota. Et puis, il y avait des choses qu'il fallait soigner, des détails. Il a dit, ma position d'arrêt au pit stop n'était pas exactement bonne, n'était pas très bonne. Et donc, c'est quelqu'un qui soigne vraiment tous les détails, qui passe beaucoup de temps avec les ingénieurs là-dessus. Et puis, il réclame aussi une chose qu'il a obtenue à Monaco, c'est-à-dire une direction assistée spéciale qu'on a montée simplement sur sa voiture et qui lui donnait plus de sensations. Il a dit, l'Alpine est différente pour moi de ce que j'avais l'habitude d'avoir et de piloter. Et ça me permet de retrouver de meilleures sensations dans le volant. Voilà, tu mets tout bout à bout, tu prends Fernando Alonso et ça fait un super package de fin de saison. À 40 ans, franchement, c'est juste magnifique. Et effectivement, ils s'entendent mais merveilleusement bien. Il n'y a que dans une autre écurie que ça se passe bien à ce point-là aussi, c'est chez Ferrari.
Oui.
Parce que Ferrari est engagé dans la bataille pour la 3e place avec McLaren et on leur a dit la même chose. Les gars, il faut s'entendre. Vous ne vous tirez pas dans les pattes. Et non seulement Alonso et Ocon ne se sont jamais tirés dans les pattes, mais ils s'entendent encore de mieux en mieux. C'est juste fabuleux.
Bon. Et ça, c'est une vraie réussite pour le patron de l'équipe. Et ça tombe bien, Stéphane. Ça tombe bien.
Oui.
Parce qu'on l'aura la semaine prochaine avec nous.
Tout à fait. On va faire une spéciale Alpine la semaine prochaine de 45 minutes avec Laurent Rossi, donc le directeur général de l'écurie de Formule 1, le PDG de la marque, qui va nous expliquer, parce qu'il est en pleine restructuration, c'est lui qui réorganise l'équipe, qui a signé les pilotes, enfin, en ce qui concerne Esteban Ocon, qui trace, qui donne la feuille de route, et puis qui a aussi obtenu l'engagement de la marque en championnat du monde d'endurance aux 24 heures du Mans à partir de 2024. Donc, on a beaucoup de choses à lui demander, et je pense que les réponses seront très intéressantes.
Et moi, j'aimerais bien savoir notamment s'il y a eu une sorte de recentrage. On a eu le sentiment qu'à un moment, il s'est un tout petit peu égaré, Fernando Alonso. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode où il s'est mis à faire des expériences, à savoir si les commissaires allaient le pénaliser plus, lui, plutôt qu'un autre, avec des théories expliquées parfois en conférence de presse qui étaient assez fumeuses. Et moi, j'ai le sentiment qu'on a dit, Fernando, arrête. Regarde, on va rouler, on a de quoi faire. Viens, on va chercher des résultats. Et... honnêtement, il y a déjà une, je le disais, une belle course d'équipe au Brésil. Et là, je pense que le Grand Prix du Qatar est parti et il a senti l'odeur du sang. Et un animal de course comme est Fernando Alonso, il peut avoir 40 ans. Si vous le mettez dans la voiture à 50 ans, dans les mêmes conditions, quand il sent qu'il y a quelque chose à aller chercher, il aura la même grinta et ça fera le même résultat. C'est un animal, ce Fernando.
Tu l'as vu quand même claquer la porte de Verstappen, devant Verstappen dans le premier tour. Verstappen
n'a pas
moufté.
Oui, il l'a pas vu.
Il n'en a pas parlé à l'arrivée, il s'est pas plaint, Verstappen. Là, c'était Alonso, vraiment en mode déménageur, c'est comme ça qu'on l'aime. Alors, effectivement, tu as évoqué un petit peu les polémiques, mais c'est aussi comme ça qu'on l'aime parce qu'il marche à la grinta. Il aime ça, il aime être comme ça. Et Effectivement, je l'avais trouvé un petit peu de mauvaise foi à Austin sur sa passe d'armes avec Raikkonen, parce qu'il embarque Raikkonen en dehors de la piste. Raikkonen se sert de sa vitesse pour rester devant. Lui, il ne trouve pas ça normal. Bon, Fernando, on a envie de dire, il faut être raisonnable. Voilà. Et puis, à Sochi, il dit, moi, j'ai fait l'expérience au deuxième virage de couper pour voir un petit peu quelle sera la réaction, quelle sanction j'écoperai pour voir si c'est cohérent avec ce qui a été décidé précédemment avec d'autres pilotes. Bon. Il avait aussi en mémoire le départ en Autriche où là il s'était fait sortir carrément. Non, il était resté sur la piste, il avait fait l'effort de rester sur la piste et il s'était fait doubler par un concurrent qui l'avait contourné en hors-piste. Alors c'est vrai qu'il a soulevé des bonnes questions, mais il en fait peut-être un petit peu trop. Alors tu as dit il a mis tout ce registre là sur le mode pause, c'est plutôt pas mal et c'est le Fernando qu'on aime et je pense que là maintenant en fait on a eu la preuve. Ce week-end, qu'il était redevenu le Fernando Alonso, au moins des dernières années McLaren, là où il était quand même très, très performant. Il avait battu sur toutes les séances de qualification un jeune qui était talentueux, qui s'appelait Stoffel Van Dorn. Voilà, donc il est déjà au taquet, il est en courbe ascensionnelle. Tout ça, c'est vraiment très intéressant. Le jeu d'équipe, et puis il était content. Et tu as vu aussi Ocon qui est allé le féliciter sur le podium. Fernando avait été ravi de la victoire d'Ocon en Hongrie. On sent qu'il y a une forme de sincérité quand même. Alors après, je ne sais pas s'ils se battent pour les premières places l'an prochain, ça sera la même chose, mais ils font le job.
C'est voilà, tout le mal qu'on leur souhaite. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que c'est un vrai exemple, c'est juste incroyable dans un sport où finalement la performance est assurée par un individu, ben, qu'on en revienne en fait à quelque chose, à un sentiment que c'est le collectif qui fonctionne.
Ouais, mais peut-être que son passage en endurance, ça lui a aussi éventuellement appris quelque chose à Fernando Alonso. On posera la question donc à Laurent Rossi la semaine prochaine, donc, puisque le patron d'Alpine sera avec nous. Il n'y a pas de Grand Prix ce week-end, hein, c'est la fin de ce que les Britanniques appellent le triple header, hein, les trois Grands Prix qui se suivent trois week-ends de suite. Là, on a quand même fait l'Amérique centrale, l'Amérique latine, le Qatar... En 15 jours, bonjour pour les organismes, ça va permettre à tout le monde, là, ce petit week-end de repos, de reposer un peu les batteries avant d'attaquer les deux derniers Grands Prix qui auront lieu donc en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi avec, on le rappelle, cet écart désormais de 8 points au championnat entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Stéphane ? On a tout dit, on n'a plus qu'à se séparer jusqu'à la semaine prochaine. Tu n'as rien d'autre à ajouter ?
Non, rien d'autre jusqu'à la semaine prochaine, effectivement. On l'attend avec impatience, ça sera un vrai privilège d'avoir le boss d'Alpine juste avant les deux dernières courses du championnat, c'est Jeddah et Abu Dhabi,
exact.
Les 5 et 12 décembre.
Exactement. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Laurent Rossi. Et d'ici là, on coupe le contact.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.